Voice of Indonesia.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, 1er mars 2019, nous allons vous présenter des programmes tels que le journal, le commentaire, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Modernisie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et une chanson traditionnelle. Bon, chers amis, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous. Voici les bulletins de l'information. Tout d'abord, les titres de l'actualité. L'Indonésie accorde des droits nuls pour les produits importés de Palestine. La Chine et l'Union européenne sont les marchés promoteurs pour les exportations de crevettes. La valeur commerciale de l'Indonésie et le Vietnam a atteint 8,45 milliards de dollars. L'Indonésie participera au Festival australien de mode multiculturel. L'intérêt de la communauté russe d'apprendre l'indonésien est élevé. Voici le bulletin complet. Le jeudi 28 février, le gouvernement indonésien a officiellement imposé des tarifs zéro pour les produits importés Palestine. Concernant cette question, le ministre indonésien du Commerce, Enggartia Stolokita, l'ambassadeur de Palestine à Jakarta, Zuhair Al-Shun, et le vice-ministre des Affaires étrangères de la République d'Indonésie, A.M. Fahir, ont eu jeudi une réunion avec le vice-président indonésien Yusuf Kalla au palais du vice-président à Jakarta jeudi. Lors de la phase initiale, la mise en œuvre de la décision est appliquée aux produits de dattes et d'huile d'olive qui devraient être exportés avant le Ramadan cette année. Dans son communiqué de presse, le ministre du Commerce Enggartia Stolokita a déclaré que le vice-président Yusuf Kalla a également souligné que le tarif zéro s'appliquait à d'autres produits palestiniens et sans étude de faisabilité tels que les accords commerciaux en général avec d'autres pays. En tant qu'ami, en tant que frère, il n'y a pas de perte. Même le vice-président a commandé ce que les Palestiniens exportent vers l'Indonésie, le tarif zéro. L'ambassadeur de Palestine à Jakarta, Zuhair Al-Shun, apprécie la décision du gouvernement indonésien qui était attendue depuis longtemps. Il a également présenté une liste d'autres produits qui sont considérés comme potentiellement à donner l'élimination des tarifs en Indonésie. Le ministère du Commerce a noté que jusqu'à présent, le volume des échanges entre l'Indonésie et la Palestine n'atteint que 3,5 millions de dollars américains. La Palestine est la 164e destination d'exportation de l'Indonésie. Les principaux produits exportés vers la Palestine sont le café, le thé, les pâtes, le pain, les parfums et le savon. La Palestine est la 162e source d'importation pour l'Indonésie, avec le principal produit d'importation, les dattes. L'Association indonésienne des hommes d'affaires en transformation et de commercialisation des produits de la pêche a estimé que la Chine et l'Union européenne étaient des marchés prometteurs et potentiels pour l'augmentation des exportations de crevettes en provenance d'Indonésie. Budi Wibowo, président de l'association indonésienne des hommes d'affaires de transformation et de commercialisation des produits de la pêche, a déclaré jeudi à Jakarta qu'actuellement, la plus grande destination d'exportation de crevettes est les États-Unis, de 129,900 tonnes, soit 65,78%, tandis que la Chine a atteint 1700 tonnes, soit 3,39%, et l'Union européenne de 1300 tonnes, soit 4,2%. La Chine était auparavant le plus grand producteur mondial de crevettes. Aujourd'hui, ses importations peuvent atteindre 400 000 tonnes, mais les crevettes indonésiennes entrant en Chine ne représentent que 2%. Cette année, l'Indonésie doit être sérieuse d'exporter vers la Chine. La valeur des échanges bilatéraux entre l'Indonésie et le Vietnam en 2018 a atteint 8,45 milliards dollars américains, en hausse de 30% par rapport à l'année précédente. Hanif Salim, consul général de l'Indonésie à Ho Chi Minh, a déclaré dans un communiqué à Jakarta jeudi que l'Indonésie avait enregistré un excédent de 1,38 milliards dollars américains sur la base des données de l'Office général de la statistique du Vietnam. Les principaux produits d'exportation de l'Indonésie vers le Vietnam sont le charbon, les graisses animales et végétales, les ordinateurs, le matériel électrique, les pièces de rechange des véhicules et les produits chimiques. Selon Hanif, les représentants indonésiens au Vietnam sont optimistes de pouvoir augmenter la valeur commerciale de l'Indonésie sur le marché vietnamien, car l'Indonésie a encore la possibilité d'entrer dans le secteur des appareils ménagers, des aliments et des boissons. L'Indonésie participera au Festival australien de la mode multiculturelle qui aura lieu à Barangaro, Nouvelle-Galles du Sud, Australie, le 1er mars. Comme l'a écrit Antara Sonia Gandhi, la directrice du Festival australien de la mode multiculturelle, a déclaré mercredi aux journalistes à Sydney que deux designers indonésiens participeront au festival, à savoir Saf Lanin et Novita Yunus. Ce sont deux créateurs de mode indonésiens qui ont présenté leurs œuvres à l'étranger. Ils ont également inclus la spécificité de la culture indonésienne dans leurs œuvres. Sonia Gandhi espère que le Festival de la mode multiculturelle australien deviendra un forum pour divers pays et concepteurs de développer l'industrie de la mode et de présenter leur culture respective à d'autres pays et communautés. L'ambassadeur d'Indonésie en Russie, Wahid Supriyadi, a déclaré que l'intérêt de la communauté russe pour l'apprendre l'indonésien commençait à être grand. Après sa rencontre avec le ministre indonésien de l'éducation et de la culture, Muhajir Effendi, à Jakarta, mercredi, a déclaré que la tenue du festival indonésien à Moscou était l'un des principaux centres d'intérêt des citoyens russes. Depuis 2 ans, le programme d'études en indonésien a été ouvert à l'Université fédérale de Kazan, en République du Tatarstan. Selon lui, l'envoi des professeurs de langue indonésienne aux locuteurs étrangers renforce également les relations diplomatiques entre les deux pays. Lors de sa rencontre avec le ministre Muhajir, l'ambassadeur Wahid a également demandé au ministre d'ouvrir le 4e festival indonésien qui se tiendra du 1er août. Chers amis, c'était le bulletin de l'information de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia. Chers auditeurs, voici donc le commentaire et pour le titre, la position de négociation nord-coréenne après le sommet de Hanoï. La tension de la communauté internationale vers un sommet entre le président des États-Unis Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a été orientée vers une réunion qui s'est terminée plus tôt que prévu. Pendant ce temps, les attentes élevées aux résultats des réunions des deux dirigeants ne sont pas réalisées. La réunion à Hanoï au Vietnam s'est terminée sans accord. Le président Trump et le chef Kim Jong-un n'ont signé aucun accord. La réunion dans le pays de tendance communiste comme la Corée du Nord faisait suite à la réunion historique de Trump et Kim à la date indiquée 12 juin 2018 à Singapour. Contrairement à la déclaration faite après la réunion de Singapour, la réunion de Hanoï a été marquée par le manque de confiance du président des États-Unis à l'égard de la bonne volonté du dirigeant nord-coréen. L'optimisme de Trump qui a été déclaré avant la réunion s'est terminé par la déclaration selon laquelle Kim ne pourrait pas encore répondre aux attentes des États-Unis. Dans sa déclaration, le président Donald Trump a déclaré que Kim avait demandé la révocation de toutes les sanctions, mais sans engagement total de procéder à la dénucléarisation. Le président Trump a également souligné que les États-Unis n'avaient pas encore abandonné les revendications de Kim. La diction « pas encore abandon » est vraiment intéressant à observer. En termes de négociation, le mot « pas encore » peut impliquer qu'il y a la possibilité d'un problème à renégocier. En utilisant le mot « pas encore », il y a deux choses qui peuvent être énoncées. Le premier est la possibilité de nouvelles discussions et deuxième, la Corée du Nord peut réellement se sentir en position de négociation. La Corée du Nord a montré son existence au monde. Par des étapes de la rencontre avec Donald Trump, Kim a montré que son pays et lui-même étaient devenus un grand pays, comme les États-Unis. En fin de compte, la prochaine réunion avec les États-Unis profitera davantage à la Corée du Nord, outre de dépendre également de la Corée du Nord. Bien sûr, on peut également voir dans quelle mesure de grands pays tels que la Chine manifesteront leur soutien au chef Kim Jong-un. Qu'elle soit reconnue ou non, la Chine est jusqu'à présent un pays qui établit des relations étroites avec la Corée du Nord. C'est du temps, c'était le commentaire pour ce soir.
Voice of Indonesia.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 1er mars. Nous commençons avec le mouvement du 1er mars 1919. Le mouvement du 1er mars ou la manifestation Manse, ou aussi le mouvement 5000, était le mouvement initial du peuple coréen dans sa lutte pour son indépendance du colonialisme japonais. Ce mouvement a eu lieu le 1er mars 1919, au cours duquel des millions de Coréens de tous les pays ont manifesté pacifiquement. Environ 7000 personnes ont été tuées par la police et des soldats japonais. Ensuite, l'attaque générale du 1er mars 1949 à Yogyakarta. L'attaque générale du 1er mars 1949 était indissociable de l'histoire du peuple indonésien. Cet événement est devenu l'une des notes importantes lorsque cette république a commencé à s'élever après avoir été libre du colonialisme hollandais. Plusieurs versions de l'attaque générale du 1er mars, mais l'objectif principal est de conquérir les forces néerlandaises et de prouver au monde que l'armée nationale indonésienne TNI a toujours le pouvoir de résister. Environ un mois après l'agression militaire néerlandaise 2, à savoir en décembre 1948, la TNI commença à formuler une stratégie pour contre-attaquer l'armée néerlandaise qui avait pris le contrôle de Yogyakarta. Le 1er mars 2002, on a commencé l'opération Anaconda. L'opération Anaconda est une invasion américaine massive en Afghanistan qui a débuté le 1er mars 2002. Les forces américaines et plusieurs pays alliés ont tenté de détruire les forces d'Al-Qaïda et des talibans. L'opération s'est déroulée dans la vallée Shakikot et dans les monts Arma, au sud-est de Zorma. Cette opération était la première bataille à grande échelle dans la guerre des États-Unis en Afghanistan depuis la bataille de Tora Bora en décembre 2001. Il s'agissait de la première opération en Afghanistan impliquant un grand nombre d'avions de l'armée conventionnelle américaine. L'opération Anaconda a pris fin le 18 mars 2002. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée « Si j'étais lui » chantée par Mita Lestari. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, écoutons maintenant Mon Indonésie.
Chers amis longtemps, nous continuons notre programme avec Mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie ont convenu de réduire les exportations de caoutchouc pour augmenter le prix du caoutchouc. Les trois principaux producteurs mondiaux de caoutchouc naturel, tels que la Thaïlande, l'Indonésie et la Malaisie, ont convenu de réduire leurs exportations de caoutchouc de 200 000 à 300 000 metric tonnes afin de faire face à la baisse des prix mondiaux de caoutchouc naturel. Cet accord a été atteint le 22 février en Thaïlande. Le ministre de la Coordination des Affaires économiques, Darmin Nasution, a expliqué que le schéma d'arrangement d'exportation appelé le schéma de tonnage d'exportation convenu AETS était l'une des décisions prises lors de la réunion du Conseil tripartite international de caoutchouc ITRC initiée par les trois pays producteurs de caoutchouc. Le ministre Darmin Nasution a déclaré lundi lors d'une conférence de presse à Jakarta que les calculs détaillés et leur mise en œuvre seraient discutés à nouveau par les représentants du gouvernement le 4 mars en Thaïlande. La réduction des exportations des trois pays est valable pour les trois prochains mois. La contribution de la production de caoutchouc naturel de chaque pays est la plus élevée, 52% de la Thaïlande, 38% pour l'Indonésie et 10% pour la Malaisie. Selon la ministre Darmin, cette politique de réduction des exportations est importante pour ramener le prix du caoutchouc naturel à son prix fondamental. À l'heure actuelle, le prix du caoutchouc exporté est d'environ 1,45 dollars américains, soit environ 20 300 rupiah par kilo. Cependant, au niveau de l'agriculteur, est seulement 7 000 à 7 500 rupiah. Darmin Nasution a également déclaré que le gouvernement indonésien s'était engagé à rajeunir le caoutchouc naturel jusqu'à 50 000 hectares par an comme l'une des politiques mises en place lors d'une réunion entre les pays de producteurs mondiaux de caoutchouc naturel. Dans le même temps, le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré qu'afin d'augmenter l'absorption nationale de caoutchouc, le ministère des Transports a encouragé l'utilisation du caoutchouc comme matière première pour les industries du secteur des transports. Par exemple, comme des équipements routiers, des séparations routières, l'utilisation sur de l'asphalte, etc. Budi Karya Sumadi, après avoir assisté à la séance au ministère des Affaires économiques liée à la politique nationale d'absorption du caoutchouc à Jakarta, lundi, a également déclaré que les produits d'absorption de caoutchouc devaient être fabriqués par les usines du pays. L'objectif est d'encourager l'industrie indonésienne à être l'hôte dans son propre pays. À la même occasion, le directeur général des transports terrestres, Budi Setiadi, a ajouté que cette production de caoutchouc pourrait être utilisée pour la fabrication d'installations de sécurité de trafic, comme les cônes de signalisation, les barrières d'eau, les barrières de sécurité, les ralentisseurs. Budi espère que le gouvernement est prêt à absorber 2000 tonnes de caoutchouc pour fabriquer un mélange d'asphalte. L'utilisation d'asphalte et de caoutchouc sera utilisée dans plusieurs régions qui sont les plus grandes productrices de caoutchouc, notamment Sumatera du Sud, Jambi, Medan et Kalimantan. Secrétaire, c'était Mon Indonésie de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta et merci d'être fidèle à notre antenne. Vous avez écouté tout à l'heure la deuxième chanson intitulée « Flèche du destin » chantée par Andra and the Backbone. Chers amis, soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel, une rubrique sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Bonjour, bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, je vais présenter la danse de Gantar. Du 22 au 23 février, le Danish Travel Show Ferry for All, l'exposition touristique la plus visitée de la région scandinave, a eu lieu à Herning au Danemark. L'ambassade d'Indonésie à Copenhague participe chaque année à l'exposition pour promouvoir l'Indonésie en Scandinavie, notamment au Danemark. Dans l'exposition, le pavillon indonésien a promu des destinations touristiques alternatives autres que Bali. Le pavillon indonésien est une combinaison de forfaits touristiques naturels et culturels. Les visiteurs peuvent déguster ses spécialités indonésiennes telles que le riz udop, les ragouts de viande, le poulet au curry, le somai, les chips de taro et la bouillie de haricots verts. Un certain nombre de danses telles que le selayang pandang, le merak, la danse de jaipong, le mas bapang malang, la danse de ngapotek, la danse de lancang kuning, la danse de gantar et lenggang ont également été présentés aux visiteurs. Parmi un certain nombre de danses traditionnelles présentées à cette exposition, aujourd'hui je vais présenter la danse de Gantar. C'est une danse des jeunes de la tribu de Dayak Banuak et Dayak Tanjung à Kalimantan Oriental. Dans cette danse de Gantar, les danseurs utilisent un bâton et un bambou court. Elle décrit l'expression de la joie des danseurs et de l'hospitalité des Dayak lors de l'accueil des invités. Cette danse est souvent utilisée pour accueillir des invités ou des touristes qui assistent à l'événement traditionnel de Kalimantan Oriental. Dans la présentation, la danse de Gantar est généralement pratiquée par les danseuses. Les danseuses portent des vêtements traditionnels de la tribu Dayak. En outre, elles portent divers accessoires tels que des bracelets, des bandeaux et des colliers. Dans la performance, la danse de Gantar est également accompagné de musique ethnique de Dayak. La danse de Gantar est divisée en trois types tels que Gantar Rayan, Gantar Busai et Gantar Senak et Kusak. La danse de Gantar Rayan utilise un seul outil, à savoir un long bâton. Sur cette longue, un fils décoré d'un crâne enveloppé dans un tissu. Dans cette danse, les danseuses en chantant. La danse de Gantar Busai utilise seulement un morceau de bambou. Les danseuses jouent du bambou selon le rythme. Le bambou utilisé est équipé de 12 bracelets pour le faire sonner lorsqu'il est déplacé. Le dernier est Gantar Senak et Kusak. Senak dans cette danse est un bâton tenu dans la main gauche, tandis que Kusak est un bambou qui est tenu par la main droite. Le bambou étant utilisé est rempli de graines afin que le son soit fort. Dans ce type de danse de Gantar, les danseuses jouent en long bâton et piétinent, tout en jouant du son de bambou en le balançant. Chers amis, c'était le magazine culturel intitulé La danse de Gantar. Merci à tous et au revoir.
Voice of Indonesia.
Satu hari nanti kita kita berdua. Kita berdua.
Chers amis, c'était la troisième chanson intitulée Au revoir ma chérie, chanté par The Massive. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers amis, pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie.
Voice of Indonesia.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur ayant pour titre Le robot de fertiliser le piment par les étudiants de l'Université Brawijaya en tant que champion international. Restez à l'écoute avec nous sur www.voice.id. Le piment devient une marchandise importante dans la culture indonésienne. Diverses spécialités culinaires traditionnelles et modernes utilisent le piment dans leur cuisine. Pour répondre aux besoins de piment, des étudiants de la faculté d'ingénierie et de l'agriculture de l'Université de Brawijaya Malang, Java Oriental, ont créé Agrobot. Agrobot est un robot agricole respectueux de l'environnement créé par la collaboration d'étudiants entre les deux facultés. Chandra Sabdana Nugroho, l'un des étudiants, a expliqué qu'Agrobot avait été créé car la disponibilité du piment rouge en Indonésie fait encore défaut, alors que les besoins sont assez élevés. L'absence de production de piment rouge en Indonésie est due à des attaques de parasites ou à des maladies. À travers de cette innovation de Agrobot, les 5 étudiants ont reçu la médaille d'argent lors de l'exposition internationale de Bangkok 2019 sur la propriété intellectuelle, les inventions, l'innovation et la technologie organisée en Thaïlande au début de la journée de l'inventeur au centre de Bangkok International Trade and Exhibition Center, Thaïlande. Chandra expliqua que pour le système de travail, le robot peut générer sur le sol des champs électromagnétiques susceptibles de déclencher l'immunité ou l'endurance des plantes à piment rouge, leur permettant ainsi de mieux résister aux maladies et d'accélérer la photosynthèse. En outre, le robot peut également surveiller la température, l'humidité et l'intensité de la lumière. Les robots fonctionneront automatiquement dans les zones agricoles et les propriétaires foncières pourront les surveiller à distance, par exemple via des téléphones mobiles. Avec Agrobot, il devrait être en mesure de remplir les besoins de consommation de piment rouge en Indonésie et de devenir une solution de culture respectueuse de l'environnement. Selon le communiqué officiel de la faculté d'ingénierie de l'Université Brawijaya, Agrobot peut être utilisé une fois par semaine pendant la période de plantation de piment rouge. Pour obtenir des résultats optimaux, vous pouvez utiliser jusqu'à 10 à 12 fois au cours de la période de plantation avec un temps d'exposition de 90 minutes chaque utilisation. Si Agrobot est appliqué à petite ou grande échelle, cela devrait contribuer à réduire l'utilisation d'engrais et de pesticides inorganiques et à augmenter les rendements de la récolte. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt. Thank you.
malam yang romantis ini. Tukar dan aku, tetapi di kau bagaikan air yang membeku. Ku masih melihat ragu di matamu. Haruskah aku berikrar lagi untuk yang ke seribu kali? Aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu, oh sungguh. Mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri? Aku cinta padamu kasih. Sungguhnya kau tak salah bila berkata begitu banyaknya wanita yang menggoda. Tetapi sehingga kini aku bertahan. Masih kau tak mengerti, masih kau tak percaya. Aku cinta padamu, sungguh aku cinta padamu, sungguh. Mestikah ku ulangi dari mulutku sendiri? Aku cinta padamu kasih.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était une chanson intitulée Je t'aime, chantée par Odi Agam. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Voice of Indonesia.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter une chanson traditionnelle en provenance de Sumatra du Nord. Cette fois, nous allons écouter une chanson intitulée Alu Siau. Cette chanson est souvent chantée par des chorales des festivals de musique nationaux et internationaux. Le mot Alu Siau signifie réponse. Les paroles de cette chanson expriment l'expression du cœur de quelqu'un qui demande des réponses à la certitude de l'amour. Bien que le créateur de cette chanson ne soit pas connu jusqu'à présent, elle est populaire dans toute l'Indonésie et fait partie du programme scolaire qui doit être mémorisé et chanté chaque fois depuis 1980. Cette chanson est devenue l'une des fiertés du peuple de Batak jusqu'à présent. Jusqu'à ce que des musiciens indonésiens de Batak les réarrangent. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée Alu Siau, chantée par Vicky Sianipar.
Asal matar barita goarna tahe yo ango dia utung asing do sita sita asing pangi doa tu macai ambape hunan tola manisak amu tahe yau sa sudena na hugo ari dada isau yau sita sita dia untuk ngasih si tutup doa he.
Voice of Indonesia.
Alusia.
Chers auditeurs et auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.